tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute, ou sur votre téléphone au 0800 92 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un des aspects les plus sinistres de la collaboration, la délation sous l'occupation.
La France tout entière n'était plus qu'une vaste prison et l'ordre nouveau avait mis partout ses mouchards. Jean Guéhenno.
Dans l'histoire. La délation fut une des conséquences les plus sinistres de l'occupation. Pendant 4 ans, de 1940 à 1944, la Gestapo, la police française, les préfectures, le commissariat aux questions juives et les partis et les journaux de la collaboration ont reçu des centaines de milliers de lettres anonymes ou signées dénonçant pêle-mêle des juifs, des communistes, des gaullistes, des francs-maçons et des résistants. La délation, on le sait, ne date pas de la Deuxième Guerre mondiale et toutes les polices du monde se sont toujours servies de mouchards. Mais à l'époque de l'occupation, quand les autorités allemandes encourageaient les dénonciations, il suffisait d'une lettre écrite à la Gestapo et à ses auxiliaires français pour envoyer un homme ou une femme dans les camps d'extermination.
Est-ce que tu lisais un peu le courrier, maman ?
Messieurs de la Gestapo, exploitant agricole, médaillé militaire, je viens vous rendre compte des agissements troubles du nommé Louvel Étienne.
Pourquoi lui trouver une occupation à ce grand garçon?
Il n'a qu'à m'aider à ouvrir les lettres.
Elle continue, maman.
Je tiens à signaler à votre attention que la femme Leboeuf Solange, modiste à Loupsac, reçoit fréquemment la visite de ses deux fils, réfractaires et communistes. Pas plus tard qu'hier.
Ah, d'accord.
Monsieur, je suis catholique, pratiquant et trouvant le marché noir indigne d'un Français et d'un chrétien. Je vous signale
que... Il n'y a rien de sérieux ce matin.
Il y en a encore beaucoup comme ça?
Nous en recevons environ 200 par jour. Il y a même un monsieur qui nous écrit pour se dénoncer lui-même. C'est comme une maladie.
André Halimi, bonjour. Alors, des lettres comme celles que l'on vient d'entendre dans cet extrait du film La Combe Lucien, il y en a plein, votre livre, hein, La délation sous l'occupation, un livre qui vient d'être publié chez l'Armatan. Vous y écrivez même que pendant l'occupation, il y a eu entre 3 et 5 millions de lettres de délation. Alors, la délation, je le disais, c'est pas quelque chose de nouveau, mais on a l'impression que vraiment, pendant la guerre, pendant l'occupation, ça a pris une ampleur extraordinaire.
Je crois que entre 1933 et 1940, il y avait beaucoup de délateurs, mais ils avaient comme en face d'eux l'autorité, l'ordre, la justice, et qu'ils craignaient un peu les retombées d'un acte de délation. En 1939, ils pouvaient donner libre cours à, malheureusement, à leur pire ennemi, à leur activité. Et tous les livres d'historiens parlent surtout de du nombre énorme de lettres qui ont été écrites, que les Allemands nous ont laissées pour nous culpabiliser, parce que ça prouvait quand même qu'ils ont tué, fusillé, mais sur les conseils des délateurs.
Oui.
Donc les délateurs ont favorisé la collaboration et ils n'ont pas craint du tout d'aller dans les pires excès, dans les pires actes.
Vous vous rappelez, André Halimi, que c'est un procédé qui est extrêmement courant dans tous les régimes totalitaires, qu'ils soient nazis, fascistes ou communistes ou staliniens. On l'a vu et on l'a même vu après la guerre. Ça se passait déjà comme ça. La délation, tout le monde dénonçait tout le monde en Allemagne nazie depuis 33.
Oui, mais dans les autres pays européens, on parle pas de la délation de la même façon. La Belgique a été occupée. Il semble qu'il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles les Français dénoncèrent. Des raisons politiques, des raisons d'intérêt, des raisons même affectives. Une femme qui dénonce son mari parce qu'elle a un amant officier. Bref, il y avait des multitudes de raisons. Et tout cela a fait entre 3 et 5 millions de lettres.
Alors si on le fait aussi souvent, c'est qu'on pouvait le faire impunément, puisque justement le régime nazi encourageait cette pratique en France quand il l'a occupée. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, sous l'occupation, les Français sont invités quotidiennement à la délation sous plusieurs formes. D'abord par l'occupant lui-même. Par exemple, en octobre 41, après l'exécution à Nantes du Feldkommandant, les autorités allemandes font exécuter 50 otages et placarder cet avis sur les murs des villes, donc des affiches. J'offre une récompense de 15 millions de francs aux habitants du pays qui contribueront à la découverte des coupables. Des informations utiles pourront être déposées à chaque service de police, allemand ou français. Sur demande, ces informations seront traitées confidentiellement. Alors, l'ordre de délation est d'autant plus pressant, hein, puisqu'il menace de faire exécuter 50 autres otages si les coupables ne sont pas arrêtés. Alors, autre forme d'invitation à la délation, la presse de la collaboration, par exemple, dans le journal Le Cri du Peuple, Lucien Rebattet écrit en novembre 40 « Traquons les gaullistes. Si vous prenez sur le fait un de ces gibiers de Londres, traînez-le-moi, séance tenante chez le commissaire. Et si le commissaire n'enregistre pas votre plainte, portez plainte contre le commissaire, n'ayez surtout ni remords ni scrupules, c'est votre devoir impérieux de français. » La presse de la collaboration, qui d'ailleurs elle-même dénonce quotidiennement dans ses colonnes des personnes privées, hein, comme étant juives, franc-maçonnes ou résistantes, en donnant leur nom et leur adresse.
Alors justement, André Halimi, la presse, on va y revenir dans quelques instants, mais d'abord un commentaire justement sur cet avis qui a été placardé en 1941. Un officier allemand est tué à Nantes par un résistant communiste, et aussitôt, on propose une récompense. On a entendu, je crois que c'était 15 millions de francs. L'appât du gain, c'était une des principales motivations. D'ailleurs, c'était aussi la raison pour laquelle, au lieu d'envoyer une lettre anonyme, comme ça se fait souvent, on signait, puisqu'il fallait évidemment recevoir la récompense.
C'est ça, jusqu'en 1942... Les lettres étaient signées, parce que d'une part, les Allemands ont gagné la guerre, et d'autre part, justement, il y avait l'appât de la prime. C'était variable. Un juif, c'était pas très cher, parce qu'il y en avait beaucoup, on avait l'embarras du choix. Par contre, un communiste, ou un résistant, était payé, on dit quelquefois, le chiffre de 15 000 francs, 25 000 francs, selon l'envergure de la personne arrêtée. Donc ces personnes qui dénonçaient n'étaient pas naïves ni innocentes, elles étaient intéressées. Elles ont dénoncé pour gagner de l'argent.
Il y avait aussi d'autres motivations que vous mentionnez, des vengeances, on se débarrasse d'un concurrent, un commerçant qui est gêné par un concurrent, on s'en débarrasse en envoyant une lettre anonyme, il y a un rival aussi, il y a parfois un mari gênant, enfin il y a beaucoup de raisons, et il y a aussi l'idéologie, hein, parce qu'on admire, on écrit, parce qu'on admire le régime nazi, et que l'on déteste les juifs, au point d'ailleurs de répondre peut-être à cet appel de la principale radio de la collaboration, Radio Paris.
La France a failli périr de la juiverie, mais le danger est-il définitivement écarté? C'est à vous de répondre. Oui, à partir de mardi prochain, nous consacrerons une ou deux minutes à nos correspondants. Si vous avez été, ou si vous êtes encore les dupes ou les victimes des Juifs, écrivez-nous, exposez-nous les faits, et nous ferons le plus large écho à vos plaintes, pour peu qu'elles soient justifiées. Nous devons tous nous unir pour combattre les ennemis de l'intérieur. Aidez-nous dans notre tâche. Votre témoignage vous sera précieux. Les lettres doivent porter l'adresse suivante. Émission Les Juifs contre la France, 116 Champs-Élysées, Paris 8e.
Alors c'est clair, hein, cette radio, Radio Paris, a reçu effectivement beaucoup de lettres de gens qui dénonçaient les Juifs.
Oui. Alors il faut dire que les citoyens avaient été suffisamment bien organisés dans leur tête pour qu'ils écrivent « Il est de mon devoir, en tant que bon citoyen, quelquefois en tant que bon catholique, de vous signaler que donc ils avaient pour le droit, ils n'avaient aucun complexe, ils s'est nié, ils mettaient leur nom, leur adresse. »
Ah, ils faisaient ça en toute bonne foi, toute bonne conscience.
Oui, absolument, ouais. il y avait pas c'est plus tard qu'ils ne signaient pas les lettres.
On s'adressait à qui, justement? Là, on s'adresse à une radio et à une émission qui est chargée, justement, de la répression antisémite. Il y a beaucoup d'organisations antisémites, on peut les rappeler, la principale étant, je crois, le commissariat aux questions juives.
Il y a aussi M. Coston, qui était un historien. Il y avait même des associations pour le racisme et l'antisémitisme. C'était d'une clarté effrayante. Oui. Donc, il y avait une multitude d'associations qui, d'ailleurs, bénéficiaient quelquefois de primes, de subventions de la Gestapo, oui, qui œuvraient uniquement pour rechercher les gens et les faire arrêter.
Alors, généralement, c'était plutôt au commissariat aux questions juives qui a été dirigé, je crois, par Xavier Vallat, puis ensuite par Barquier de Pellepoix, donc qui était envoyé un courrier abondant dont Stéphanie Duncan a sélectionné quelques lettres.
Oui, beaucoup de ces lettres antisémites mettent en avant des querelles d'ordre professionnel. Alors, par exemple, celle d'un médecin de Limoges en décembre 41. « Monsieur le haut-commissaire aux questions juives, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants. En février prochain, doit s'ouvrir à Limoges un concours de médecins des hôpitaux de cette ville. Or, un Israélite, il donne son nom, qui fit la guerre 39-40 largement à l'arrière, est amené à se présenter à ce concours. J'ose espérer qu'une injustice ne sera pas commise qui risquerait de permettre à un juif 100% de devenir chef d'un service hospitalier au détriment de Français pur sang. Je vous prie de croire en mes sentiments très respectueusement dévoués. » Signature. Dans le même esprit, la lettre d'une fourreuse à Cahors en mai 42. « Il m'est complètement impossible de travailler, dit-elle, étant écrasée par les masses de juifs qui travaillent à plein rendement sous le nom de Madame A. » Elle donne son nom. « Ils ont tous acheté des magasins de fourrures de Cahors. Je suis seule à lutter, monsieur le commissaire général. Je vous demande votre aide. » Une lettre signée, qui aura des suites, hein, puisque Darquier de Pellepoix, 15 jours plus tard seulement, donne cet ordre au directeur régional. « Je vous prie de bien vouloir effectuer une enquête sur Madame A. » Alors, certaines lettres ont des motivations plus personnelles, comme celle de Madame C, dont le mari la trompe, dit-elle, avec une femme juive. « Monsieur le commissaire, je me permets de m'adresser à vous pour vous demander s'il ne vous serait pas possible de protéger les familles chrétiennes contre les agissements d'intrigants d'israélites. Mon mari, ancien combattant de 14-18, après une vie exemplaire consacrée à élever ses 6 enfants, a été détourné de ses devoirs par une juive de mauvaise mœurs notoire. » Madame C donne ensuite le nom et l'adresse de cette femme, une lettre qui, encore une fois, sera transmise aux autorités compétentes. Alors d'autres parmi ces bons Français sont totalement désintéressés, comme cet habitant de Sauxilange dans le Puy-de-Dôme par exemple, un antisémite militant de longue date. « Cher monsieur Darquier de Pellepoix, dit-il, je tiens à vous féliciter pour votre nomination et vous souhaiter une entière et pleine réussite. » Puis il ajoute « Il serait très intéressant de faire surveiller le nommé soi-disant de R, hein, il donne son nom, venant ici à Sauxilange. Il descend à l'hôtel F, se dit employé dans un ministère, taille environ 1m69, châtain clair, cheveux clairsemés, souvent en complet beige, tête de juif, il y a même un dessin. Recevez, je vous prie monsieur, mes civilités empressées. » Et encore une fois, cette lettre aboutira à une enquête et probablement à une arrestation.
Oui, c'est ça, André Halimi, qui rend peut-être ce type de lettres encore plus infâmes qu'en temps de paix, parce qu'il y en a même aujourd'hui des lettres de ce type, même si le contenu est différent. C'est qu'à l'époque, elles étaient presque toujours suivies d'une enquête et d'une arrestation.
Oui, et puis il n'était pas question, évidemment, de prendre un avocat, de se défendre. Enfin, dans de très très rares cas, on pouvait aller en justice. Mais c'était très très rare. La plupart du temps, on venait chercher les gens et on les embarquait et ils disparaissaient. Donc c'était un jugement d'une efficacité. Alors c'était valable également pour l'armée allemande qui avait noué des relations de toutes sortes. L'armée allemande fournissait des hommes virils, elle fournissait aussi des gens qui faisaient des affaires, qui rachetaient des appartements, qui rachetaient des meubles. Mmh. Alors toutes ces dénonciations avaient comme finalité,
pour des hommes
d'affaires entre guillemets.
Oui.
Et à ce point de vue, je crois que dans les, je sais pas si vous avez mentionné les journaux.
Non, mais on y reviendra. Mais simplement, je voudrais que on évoque aussi le fait qu'il y a d'autres catégories de Français qui sont victimes de ces lettres. Il n'y a pas que les Juifs, il y a des gaullistes, il y a des communistes. N'oublions pas que le Parti communiste est interdit, donc ces gens sont évidemment clandestins. Alors évidemment, ils sont à la merci de ce type de lettres. Il y a les résistants et parfois même des résistants dénoncés par d'autres résistants. Il y a des règlements de compte au sein de la résistance qui se font par le biais de lettres.
Oui, tout était, grâce à la délation, chacun allait à ses pires instincts. Il n'y avait aucune limite, il n'y avait aucune morale. C'était un monde voué au désastre.
Tous étaient dénoncés, donc, et traqués par les forces de l'occupation.
Une route française après un coup de main. Des passants et des véhicules sont contrôlés par la police allemande. À proximité de la route, on a découvert une ferme dont l'occupant accordait refuge aux terroristes. L'immeuble est incendié.
les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant des blêmes quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, la délation sous l'occupation.
Et c'était un des plus grands succès de l'année 1941, Verlaine par Charles Trenet, qui était lui aussi victime, vous le dites, de la délation, André Halimi.
Oui, d'abord, on lui reprochait sa légèreté. On l'a accusé d'être juif. Il a dû y répondre. Il a dit « Je ne suis pas juif ».
Cette lettre, vous la citez, cette lettre d'un journal qui s'appelait « Le Réveil du Peuple », une lettre ouverte à Charles Trenet, et qui écrit ceci. « Nous aimerions connaître, Monsieur Trenet, la généalogie de votre famille. Mais minute, cette généalogie ne doit point s'arrêter à vos grands-parents paternels ou maternels. Il nous faut aussi les parents de vos grands-parents. » Et le journal ajoute « Nous nous réservons de faire les enquêtes nécessaires afin de déterminer très exactement si vous êtes juif ou si vous ne l'êtes pas. »
D'ailleurs, on avait dit que Trenet, c'est l'anagramme de Néter. Ouais. Donc Néter est un nom juif. Donc il s'appelle Néter. Ouais. Ce qui était absolument faux. Donc il a dû plusieurs fois dire qu'il n'était pas juif, ce qui n'était pas ouais. Bon.
Il n'est pas le seul. Hein, vous citez aussi dans Gringoire. On lit Madame Viviane Romance nous prie de faire savoir qu'elle n'est pas israélite. C'est épouvantable ce que se déchaîne cette délation. C'est vraiment abominable.
Je suis dit solidaire aussi. Vite à déclarer qu'elle a prouvé. Elle n'aimait pas les juifs, mais par des déclarations intempestives, elle se rangeait très vite du côté des vainqueurs.
Alors là, ce que je viens de citer, André Halimi, ce sont les journaux, parce qu'il n'y a pas eu que des lettres de délation pendant l'occupation. Les journaux aussi se sont mis effectivement à dénoncer des gens juifs ou soupçonnés de l'être, etc. Ils ont joué un grand rôle, vous les citez tous, j'en cite que quelques-uns, les plus connus de l'époque. Je suis partout, L'Appel, Gringoire, Au Pilori.
Oui, puis alors là, c'est qualitativement, par exemple, Le Pilori publie la liste des francs-maçons. Ça fait plusieurs numéros avec leur nom, leur adresse. C'est un appel au meurtre, carrément. On a leur adresse. Le journal L'Appel dénonce la liste des imprimeurs juifs. Langue, LANG, etc. Alors, avec leur adresse aussi. Il y a même L'Appel aussi qui publie la liste de gens qui mériteraient d'être arrêtés et demande des rafles. Plus de rafles qu'avant. Il n'y a pas assez de gens arrêtés. Il faut aller plus vite. Que font les troupes occupantes? C'est hallucinant à ce point de folie.
Un déballage de linge sale, en tout cas, qui n'était pas forcément toujours du goût des autorités de Vichy elles-mêmes, hein, qui était très ambigu sur la délation. Écoutez ces deux messages de Pétain à la radio. L'un encourage la délation, le 22 octobre 1941. L'autre, au contraire, la déplore deux mois et demi plus tard. Mais d'abord, Philippe Pétain, le 22 octobre 1941.
Français, contre des officiers de l'armée d'occupation, des coups de feu ont été tirés. Deux morts. 50 Français ont, ce matin, payé de leur vie ces crimes sans nom. Français, votre devoir est clair. Il faut faire cesser la tuerie. Dressez-vous contre ces complots. Aidez la justice. Un coupable retrouvé et 100 Français sont épargnés.
Et le même Philippe Pétain, le 1er janvier 1942.
La conduite d'une politique française inspirée des seuls intérêts français exige le resserrement de l'unité française. Cette mobilisation ne peut souffrir aucun délai. Elle ne peut davantage admettre aucun déserteur. J'ai le devoir d'appeler déserteurs tous ceux qui, dans la presse comme dans la radio, à Londres comme à Paris, se livre à d'abjectes besognes de désunion, et tous ceux qui, dans le pays, recourent à la calomnie et à la délation.
Étonnant, hein, ces deux messages, André Halimi de Pétain, à 2 mois et demi d'intervalle. L'un encourage la dénonciation de ceux qui ont tué un officier allemand à Nantes, et l'autre, au contraire, condamne la délation.
Oui, c'était monnaie courante. Il y avait deux langages. De la même façon, le ministre de l'Éducation demandait aux enfants de dire ce qui se passait à la maison, de parler, si éventuellement, comme dans un régime nazi, on les encourageait presque à dénoncer les parents, à savoir s'ils n'écoutent pas Radio Londres, si les voisins ne tiennent pas des propos gaullistes. Donc il y avait plusieurs langages. Un langage, il ne faut pas dénoncer, c'est pas beau. Mais enfin, cela dit, si vous le faites, on vous en voudra pas beaucoup, parce que finalement, ça nous aide drôlement.
Dans le message, dans le dernier message qu'on a entendu, Pétain condamne ceux qui font de la délation à Paris, c'est-à-dire les éléments les plus collaborationnistes de l'époque, et puis aussi à Londres. Et alors, vous rappelez une chose aussi, c'est que à la radio de Londres, on donnait le nom de collaborateurs à abattre. Même dans des journaux de la résistance comme Libération, par exemple.
Oui, parce que là, il fallait répondre au crime par le crime, malheureusement. Et ça a continué à la Libération. Il y avait une telle habitude. On a vu des gens dénoncés par des gens qui étaient eux-mêmes des dénonciateurs pendant l'occupation. On n'en sortait plus. C'était vraiment le cercle vicieux. La seule façon de voir les choses, c'était la dénonciation, c'était la lettre. Et si certains délateurs ont été dénoncés à la Libération, d'autres ont joué les deux jeux et ont fait les deux. Ont dénoncé pendant l'occupation et à la Libération.
Ce qui ne faisait pas forcément plaisir d'ailleurs aux forces de la France libre et à leurs journalistes à la radio. Écoutez cette archive de 1945, donc après la Libération, Jean Oberlé.
L'hiver est pénible à passer et les lettres que nous recevons contiennent beaucoup de plaintes. À ce propos, je dois dire à mes aimables correspondants que je ne lis pas les lettres anonymes. Dès que je vois qu'elles ne portent ni signature ni adresse, je les jette au panier. Nous avons pendant 4 ans assez dénoncé de Londres les méthodes de la Gestapo et de la milice pour ne pas les imiter quand nous sommes rentrés dans notre pays. Cela prouve, une fois de plus, combien le séjour des Allemands a contaminé la France. Ils y ont laissé, chez beaucoup de Français, chez beaucoup trop, un amour du marché noir, du débrouillage par tous les moyens, de la dénonciation, de la lettre anonyme, et il faut bien dire qu'ils y sont aidés par les circonstances de la vie difficile en ce moment plus que jamais.
Et les circonstances à l'époque, André Halimi, c'était l'épuration qui s'est faite, vous le disiez aussi, sur la base de lettres de dénonciation. Cela dit, on peut comprendre que des gens dont la famille a été victime de dénonciateurs ou de délateurs les dénoncent à leur tour, mais c'est un engrenage épouvantable au fond.
Oui, d'ailleurs, vraiment, Aubrac l'a souvent regretté. Il était commissaire à Marseille et il recevait un grand nombre de lettres. Presque toute la ville était dénoncée. Mmh. On ne savait pas où était la vérité, ce qui était faux, ce qui était règlement de compte, on marchait sur des œufs, parce que effectivement certains avaient eu un langage trouble. Après, on retournait leur veste. Et comment faire foi, comment donner à ces lettres-là la moindre vérité?
Les lettres de dénonciation, votre livre est essentiellement fait avec ces lettres, André Halimi. Comment les avez-vous retrouvées? Parce que c'est quand même des lettres qui sont accablantes, évidemment, pour ceux qui ont pu les écrire.
Écoutez, il y a différentes sources. Il y a Nanterre, où il y a beaucoup d'archives. Il y a le Centre de documentation aux Juifs contemporains, le CDJC. Il y a surtout les Allemands par la radio allemande, par le qui s'appelle le Bundesarchiv, je ne connais pas l'allemand, qui dans ses principales villes, puisque ce sont des radios qui sont disséminées en Allemagne, ont des lettres, ont ramené en Allemagne beaucoup de lettres. Mais c'était assez habile parce que ça prouvait que s'ils ont torturé, s'ils ont arrêté, s'ils ont déporté, c'est avec le conseil et les appuis des citoyens français. Ils n'auraient jamais pu. Ils connaissaient trop mal la France pour savoir qu'un imprimeur est juif, qu'un patriote est caché chez un fourreur qui est en province. Donc la collaboration des Français dans ce domaine-là a été complètement réussie.
Oui, mais c'est quand même les Allemands qui les ont poussés à dénoncer. Je sais que c'est une pratique qui existait avant, qui existe depuis aussi pour d'autres cas moins graves. Enfin, où,
les Français se sont laissés vite séduire quand même. Ouais. Parce qu'à travers cela, ils réglaient des comptes aussi. la femme qui est la maîtresse d'un homme qui est officier allemand, vous comprenez, elle obéit à ses instincts, elle pense pas ni France ni Allemagne, elle pense elle-même.
Et qui se débarrasse, vous voulez dire, de son mari en le dénonçant, ça arrivé, ça.
C'est arrivé, oui, il y a eu pire, il y a eu la femme qui demandait à la Gestapo, elle disait que son mari était un patriote, mais elle veut bien le dénoncer à une condition, elle veut être certaine qu'il sera fusillé.
Et ça, on trouve ça effectivement dans votre livre. À la fin de ce livre, André Halimi, vous écrivez, 60 ans après l'époque dont nous venons de parler, « La délation est toujours derrière la porte, elle n'attend que son moment ».
Hélas, je crois que beaucoup de gens refoulent leurs instincts aujourd'hui, heureusement, parce qu'ils ont peur, mais il suffirait, j'espère qu'on ne connaîtra jamais plus cela, mais il suffirait qu'un pays, quel qu'il soit, pendant un moment, connaisse un régime de concentrationnaire, un régime...
Vous en citez quelques-uns et qui en connaissent après, qui en ont connu depuis la guerre.
Oui, je crois qu'en Union soviétique, la délation était une façon de vivre et une façon de régner. Dans tous les pays soviétiques, ça a été quand même les goulags, ça a été une période très difficile sur le plan de la communication des citoyens avec les dirigeants de l'État. Donc, effectivement, il faut avoir peur que ça recommence.
Même dans les démocraties, il faut rappeler quand même, je crois l'avoir entendu il y a peu de temps, que beaucoup de juges d'instruction dans des affaires qui ont moins de conséquences aussi graves, dramatiques que celles qu'on a évoquées, disent qu'ils fonctionnent sur des lettres de délation, par exemple dans des affaires crapuleuses sur le plan politique.
Ben, la délation aide, quelquefois elle aide des causes intéressantes. Par exemple, on peut citer le cas d'un assassin, un voisin qui est assassin, et qui tue tous les jours quelqu'un dans son appartement, et il faudrait le dénoncer quand même.
Justifié dans ce cas-là. Enfin, moins dans les cas que vous mentionnez dans votre livre, André Halimi, donc que je rappelle, La délation sous l'occupation, qui a été écrit, qui vient d'être réédité chez L'Harmattan, ainsi qu'un autre livre sur cette époque, et que vous avez écrit, André Halimi, qui est Chantons sous l'occupation. Vous avez pu entendre des extraits des documentaires et films suivants. La délation sous l'occupation, justement écrit et réalisé par vous pour France 5, André Halimi, et c'est un film qui sortira le 10 novembre prochain au cinéma. Enfin, vous avez pu entendre tout début, un extrait de La Combe Lucien de Louis Malle. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Alain Armstrong et Jean-Philippe Jeanne. Documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Sandra Escamez. Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, qui a inventé l'école?